Pourquoi l'Américaine Nuland a peur de ce que la force Wagner débarque au Burkina Faso, le numéro 2 du département dit. Le président burkinabé par intérim, Ibrahim Traoré, a été sans ambiguïté. Les Burkinabés défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation. Ils n'ont pas l'intention de faire appel au groupe Wagner. Nous avons été très clairs avec lui sur les risques encourus si un jour il changeait d'avis. Et nous avons parlé de la manière de continuer à soutenir les efforts de l'armée pour repousser les terroristes sans le soutien extérieur de la Russie et Wagner. À regarder la vitesse avec laquelle le Burkina de Traoré se réarme contre les terroristes et leurs sponsors, à voir ces près de 50 000 forces patriotiques que le pays des hommes intègres vient de recruter, la crainte de Nuland est compréhensible. Samedi, des milliers de Burkinabés sont descendus pour la énième fois consécutive dans la rue pour exiger l'expulsion des forces d'occupation françaises, mais cette fois c'était bien différent. Les manifestants qui se sont rendus en divers endroits de la capitale burkinabé, dont l'ambassade de France, portaient des pancartes et scandaient des slogans tels que « France dégage »,« France en en a marre ». Ils ont été autorisés à remettre à l'ambassade une lettre demandant le départ de la France du territoire burkinabé dans un délai de 72 heures. Ils sont également allés à la base de Kamboinsin où sont stationnés quelques 400 soldats français. Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare, qui nous méprise, a déclaré l'un d'eux, Alun Traoré. C'est de loin la première fois après le mémorable clash Barkhane population à Kaya, dans la région centre-nord du pays où le peuple a bloqué le convoi militaire français qui faisait route vers le Niger. Les Burkinabés se dirigent vers une base militaire de l'armée nationale, ce qui signifie que la France devra désormais faire face si elle continue à refuser de mettre fin à son occupation. Des ONG et des parlementaires nigériens exigent la lumière sur une opération militaire menée lundi 24 octobre sur un site d'orpaillage dans l'ouest du pays qui a fait officiellement 7 morts, mais dont le bilan total pourrait être bien plus élevé. Malgré des accusations contre elle sur les réseaux sociaux, l'armée française met la faute sur l'armée nigérienne et fait semblant de ne pas avoir joué de rôle direct dans cette opération. Tout a commencé le lundi dernier, le 24 octobre, lorsqu'un raid antiterroriste a visé un site d'orpaillage clandestin à Tamou, dans la région de C, près du parc du W, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Ce que le ministre de la Défense présente comme une opération antiterroriste réussie est considéré par la société civile nigérienne comme une énorme bavure des forces de défense qui auraient en réalité fait beaucoup plus de victimes que ce que prétendent les autorités, des victimes civiles. Que s'est-il alors passé sur le terrain? On se rappelle du cas similaire au Mali, à Bounti, où une frappe aérienne de l'armée française avait visé un mariage et tué des civils. Un massacre que la France n'a jamais réellement reconnu et assumé ses responsabilités. D'ailleurs, la France a à maintes reprises violé l'espace aérien malien, d'où l'exigence du gouvernement malien de faire traîner la France devant la justice internationale pour ces violations. Le scénario du Mali se répète cette fois au Niger, ce pays où Barkhane s'est réfugié après son expulsion historique du Mali, ce pays où le peuple n'a pas hésité d'exprimer son mécontentement depuis le début de ce redéploiement. Cela dit, Barkhane ne sait plus comment habiller de manière présentable son aveu d'échec et ne sait pas comment remettre la cause sur l'armée nigérienne. Pire, il se vante même de ses 15 opérations conjointes dans l'ouest à la frontière avec le Mali, une zone soumise à une forte pression de groupes armés terroristes. Les Nigériens, tout comme les Maliens et les Burkinabés, se battent pour préserver leur souveraineté et leur intégrité. Ils ne sont pas prêts à laisser faire Barkhane sur leur territoire. Des centaines de manifestants burkinabés se sont déplacés vendredi 28 octobre jusqu'au camp Bilazagré de Kamboinsin où sont stationnées les forces spéciales françaises que la France quitte le Burkina et ce, sous 72 heures. Les manifestants ont également réclamé le départ de 5 anciens ministres de l'ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba, reconduit dans le nouveau gouvernement. Comment peut-on analyser la situation au Burkina? Nous avons interrogé à ce sujet Daouda Émile Ouédraogo, journaliste et coordonnateur international de l'ONG Stand for Life and Liberty, afin d'en savoir plus sur la situation au Burkina Faso et cette volonté du peuple à faire expulser les forces françaises.
Aujourd'hui, il va sans dire que les manifestations depuis l'avènement du coup d'État du 30 septembre 2022 au Burkina Faso a montré que les populations ont décidé, ils avaient déjà commencé à faire des manifestations, mais ces manifestations prendraient de l'ampleur contre la présence des forces françaises au Burkina Faso. Et les dernières manifestations de ces deux derniers jours, des 27 et 28 et 29 octobre 2022, disons 27 et 28 octobre 2022, ont prouvé une fois de plus que les populations en ont marre de la présence française au Burkina Faso. Et ces manifestations sont montées d'un cran. On a vu que lors du coup d'État du 30 septembre et le 1er octobre, il y a eu le saccage de l'ambassade de la France au Burkina Faso, ainsi que des intérêts français, notamment le centre culturel français à Ouagadougou et aussi le centre culturel français à Bobo-Dioulasso. Alors, ces violentes manifestations prouvent en un point baisant que les populations ont vomi la France et ils ont fait le choix de la Russie. Mais ce que je dois dire ici, il faut que les populations africaines en général et celles burkinabées prennent conscience que la défense de la patrie, le recouvrement de l'intégrité du territoire national ne se fera pas sans le concours des filles et fils du Burkina Faso et des pays en conflit. Il est vrai qu'on peut solliciter des partenariats militaires, des partenariats économiques, des partenariats dans d'autres domaines culturels, mais il faut comprendre que le développement ne va pas sans la promotion de nos propres valeurs. Il n'y a pas de développement en dehors de l'idéologie de Thomas Sankara. Et les récentes manifestations contre la base française de Kamboïsien, les populations se sont senties interpellées pour montrer à la force française, en allant à la base française de Kamboïsien, qu'ils n'ont pas peur de défendre leur patrie. Mais il ne faut pas défendre la patrie seulement contre l'occupation d'une force étrangère. Il faut défendre la patrie contre les groupes armés terroristes. C'est ce qui est important. Et lorsque je constate que le gouvernement a lancé le recrutement de 30 000 volontaires pour la défense de la patrie et qu'il n'y a pas trop d'engouement pour se faire enrôler, je me pose des questions. Pourquoi sortir manifester si lorsque on nous appelle à aller défendre le pays au front, on ne veut pas se faire enrôler? Ça, c'est une dichotomie qu'il faut rapidement arranger. Alors, du côté de la France, il faut que les autorités françaises comprennent que l'Afrique a évolué. Et du fait que l'Afrique ait évolué, il faut éviter de manquer de respect aux pays africains ou de manquer de respect aux autorités africaines. Le respect et la souveraineté des nations africaines est un impératif si l'on veut collaborer ou nouer des partenariats solides avec les Africains aujourd'hui dans les domaines politiques, dans les domaines économiques et dans les domaines culturels. Les mentalités ont évolué et la politique française en Afrique doit évoluer. Et je précise à ce niveau que les manifestations anti-françaises sont des manifestations anti-politiques françaises et non des manifestations déclinées et destinées contre les Français en tant que tels. Sinon, je sais que à travers l'Afrique, les Français ont de grandes amitiés individuelles ou collectives avec des entités ou bien des personnes en Afrique. Donc, ce que l'on dénonce en Afrique, ce n'est pas une politique contre les Français, mais c'est une politique contre la politique française en Afrique. Il va sans dire que, à l'analyse, les politiques françaises doivent changer de fusil d'épaule, changer de fusil d'épaule et essayer de traiter avec l'Afrique d'égal à égal, de faire des partenariats gagnant-gagnant et de respecter les décisions des pays quant à leur choix. Cela est très, très important.
Les services financiers mobiles sont en pleine croissance en Afrique. Selon le régulateur tanzanien des communications, 39,5 millions de Tanzaniens ont réalisé 366 millions de transactions pour une valeur totale d'environ 12,7 billions de shillings au mois de septembre 2022. L'opérateur de télécommunications Vodacom Tanzania a annoncé le jeudi 27 octobre que M. Pesa, sa plateforme de services financiers mobiles, a étendu son service de transfert international à 8 nouveaux pays de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cela permettra à ses abonnés d'envoyer et de recevoir de l'argent via leur compte mobile monnaie dans ces pays. Les pays concernés sont l'Afrique du Sud, le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, le Lesotho, le Mozambique, l'Eswatini et la RD Congo. Cette initiative permet de relier financièrement la diaspora à leurs familles restées au pays. Les réformes en cours dans le secteur minier zambien depuis l'élection du président Hichilema ont relancé l'intérêt des investisseurs pour les immenses réserves de cuivre du pays. Les autorités veulent porter la production annuelle à 3 millions de tonnes en 2030 contre environ 900 000 tonnes en 2021. En Zambie, la recherche d'un nouvel investisseur se poursuit pour la relance de Mopani Copper Mine et les spéculations avec. Si la compagnie publique ZCCMIH et son conseiller Rothschild & Co n'ont rien laissé filtrer des négociations menées dans ce sens, le Canadien Barrick a réaffirmé cette semaine son intérêt pour ce projet. Interrogé au cours d'une conférence de presse sur de nouveaux investissements en Zambie, particulièrement dans Mopani Copper Mine, le PDG Marc Bristow a en effet déclaré que la compagnie qu'il dirige reste ouverte aux opportunités, a rapporté Reuters. Premier producteur mondial de minerais de manganèse, le groupe français Eramet opère notamment au Gabon à travers sa filiale Comilog. Alors que sa production de manganèse était en hausse de 17% au premier semestre, la compagnie poursuit sur sa lancée au troisième trimestre de l'année. Les mines de Comilog, filiale gabonaise d'Eramet, ont livré 2,1 millions de tonnes de manganèse au troisième trimestre 2022. C'est ce que la compagnie française a indiqué dans un rapport publié jeudi 27 octobre, précisant qu'il s'agit d'une hausse de 6% en glissement annuel. Cela porte la production des 9 premiers mois de l'année à 5,7 millions de tonnes. Pour Eramet, l'agrandissement de la mine Moanda a joué un rôle clé dans ce résultat, cette dernière confirmant sa place de première mine au monde pour le manganèse à haute teneur. Le nouvel opérateur promet des offres innovantes au Bénin. Un pari pour le gouvernement au regard de la précédente initiative de l'État plombée par la mauvaise gestion et des critiques récurrentes adressées aux acteurs GSM par les consommateurs. Après le Sud-Africain MTN et le Marocain Move, le Bénin dispose désormais d'une troisième figure de la téléphonie mobile, une initiative promue par l'État béninois, baptisé Celtis Bénin. L'opérateur a officiellement lancé ses activités le 21 octobre 2022 à Cotonou. Le nouvel opérateur promet entre autres une couverture réseau de 80% du territoire dès l'entame de ses activités, un tarif de retrait de 1% sur les transactions financières via mobile, communément appelé mobile monnaie, et une communication gratuite entre abonnés du segment fixe. Le défi se révèle donc de taille, d'autant que le duopole MTN Move se partage le marché des communications électroniques au Bénin à raison de 60 et 40% de parts respectivement.